Et donc, au début, je vais vous parler un peu du travail de Yoré, et ensuite, je vous présenterai un petit peu de céramique traditionnelle, parce que c'est important pour comprendre ce qui se fait maintenant. Et je vais aussi me baser sur ce livre auquel j'ai participé, que si ça intéresse certaines personnes, vous pouvez le consulter après, et éventuellement le commander dans la fiche bleue. Et on présente donc une cinquantaine de jeunes artistes qui sont nés après 1965 et qui nous ont plu. Et c'est un livre qui s'adresse aussi à un public, pas forcément de professionnel, un public large. C'est édité en français et en anglais. Et l'idée était de présenter tout ce qui se fait en céramique actuellement. Alors céramique, c'est un terme très large, qui est en dehors du matériau, de la cuisson, ça n'a plus d'importance. On parle de céramique en général. Et ça se traduit en japonais par yakimono, qui veut dire chose cuite. Et donc, Yoé Nishimura, lui, a littéralement pris ce terme à la lettre, et donc cuit des choses. Et le livre est un sujet qu'il a étudié depuis les années 90 et auquel il est très attaché et qui est un thème universel. Je vous présenterai deux autres travaux d'artistes qui utilisent le livre comme modèle, mais dans un travail tout complètement différent. Et donc, voilà. Yoé Nishimura est plutôt considéré comme un sculpteur à la base qui utilise la céramique comme médium. Et il a effectivement créé énormément de pièces en céramique, notamment des cuissons en terre noire que l'on appelle hokuto en japonais, qui était une méthode de cuisson un peu révolutionnaire que les artistes japonais avaient déjà découvert dans les années 50, et lui a repris ce thème. Cette pièce-là est notamment maintenant à Londres au Victoria and Albert Museum, et il a mis à l'intérieur de cette pièce du papier journal. Vous voyez que même à l'époque, il avait déjà en tête l'idée de la transformation de la matière. Et par miracle, le papier, même si on n'y met aucun élément céramique, arrive à être solidifié pendant la cuisson, parce que à l'intérieur du papier, vous avez dans le meilleur des cas du bois. Et le bois qui est utilisé sous forme de cendre pour certains émaux céramiques se solidifie, en fait. Le bois en brûlant se solidifie et permet d'obtenir le résultat des pièces que vous voyez là. Et donc, vous voyez que d'autres ont un émail à base d'argile qui est appliqué dessus. Donc, au départ, il a été considéré un peu comme un artiste conceptuel, hein, dans la mesure où il ne présente pas vraiment le profil d'un céramiste traditionnel, mais l'élément, le matériel, la terre et surtout l'élément de fusion, l'élément de la cuisson est très important pour lui. Et c'est cet élément qu'il va ensuite développer tout au long de sa carrière. Je vais vous montrer d'autres pièces. Il fait aussi partie d'un courant qui, au début des années 70, ne cuisait même pas la céramique. Ils utilisaient simplement la terre telle qu'elle. Et il y a une pièce assez révélatrice ici. C'est simplement une masse de 50 kilos de terre qui sont posés sur une balance. Vous voyez, c'est marqué 50. Et donc, ce qui compte ici, c'est l'idée de la matière, la perception de la masse, la perception de l'élément terre. On a eu aussi des exemples d'artistes qui jouaient avec la boue et qui ont été considérés comme des artistes avant-gardistes au Japon à partir déjà des années 50. Un autre travail où la terre intervient déjà avec le papier. Vous voyez qu'ici, il a recouvert d'argile du papier journal. À l'intérieur, vous avez du bois qui se transforme en charbon. Et on voit bien cette idée de la solidification et de la transformation de la matière. Voilà. D'autres pièces. On peut présenter ici. Alors là, il y a un travail de plaques assemblées avec à l'intérieur aussi de nouveau des journaux qui sont fermés. Donc la cuisson se fait avec le couvercle et le fait de présenter le couvercle à côté de la pièce est une manière de révéler l'intérieur, de révéler la transformation de la matière. Et un travail qui est aussi très fort et qui parle énormément, énormément de gens, c'est qu'ici, il a décidé de récupérer des tasses en porcelaine, parce que l'élément de la récupération est un thème récurrent dans son travail. Tous les livres que vous voyez ici ont été récupérés soit de bibliothèques où on les avait abandonnés pour des raisons de place, pour des raisons d'ancienneté, etc. Là, il a récupéré, il a acheté entre guillemets des pièces qui étaient déjà un peu abandonnées, qui étaient des services, des pareliers, des choses qu'on vendait à l'unité. Et il y a mis des cailloux. Et en fait, le caillou avec le mélange du minéral et de métaux, etc., fond, alors que la céramique, la porcelaine qui a été créée artificiellement par la main de l'homme reste entière. Et donc il joue énormément avec le thème de la chimie, de la physique, de l'élément de cuisson. Et c'est des pièces qui sont très fortes, qui parlent énormément. On comprend tout de suite le niveau philosophique de son travail. Et si certaines pièces sont cassées, certaines tasses sont cassées, ce n'est pas à cause de la cuisson, mais c'est par exemple la pierre qui a explosé pendant la cuisson et qui a détruit, qui a cassé la tasse lors de la cuisson. Voilà. Ici, un travail aussi très intéressant. Voilà. Alors, attendez, je vais vous montrer une autre image qui est meilleure. Voilà. Non, c'est pas ça. Si je peux l'agrandir. Ok. Ça marche. J'arrive pas à l'agrandir tout à l'heure. J'étais arrivée. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà, là vous voyez mieux la qualité de. Donc là, il s'agit de journaux qu'il a cuit aussi. Et dans ce cas-là, ce sont des journaux qui ont été enfermés dans des caissons métalliques. Et il a récupéré à côté, dans ses fioles, le liquide qui s'est dégagé à la cuisson, dans les tuyaux. En fait. Donc, il y a tout un travail sur la transformation, le concept de la récupération, de nouveau, de la momification. Et pour cette exposition, le thème du passage du monde des vivants au monde des morts était un des thèmes importants. Et on voit ici tout à fait cette volonté donner une deuxième vie à des choses existantes sous une autre forme. Alors ici, on travaille aussi de récupération, entre guillemets. Ce sont des très grandes pièces. Alors c'est vrai qu'on est parfois surpris par la dimension des pièces lorsqu'on les voit en réalité. Il faut savoir que toutes les pièces qui sont contre le mur font partie d'une série du poch japonais qui a un petit format comme ceci que tous les éditeurs utilisent, qui est un format de base. Et donc évidemment, le processus de cuisson fait que les livres ont rétréci. Et donc c'est assez étonnant de voir à quel point l'objet est modifié pendant la cuisson, alors que d'autres pièces sont beaucoup plus grandes et donnent une autre dimension à l'objet. Ici, il a récupéré des tasses qui étaient ébréchées et il les a emballées dans de la terre. Ce sont des grandes pièces comme ça qu'il a déposées au sol, où de nouveau il a donné une nouvelle dimension, où carrément l'objet initial a disparu dans la masse de terre. Voilà. Et un exemple pour finir, ici, de l'idée de transformation de la matière. Il est allé jusqu'à cuire des fruits, vous avez des pommes, des kiwis, par exemple en bas, dans des gamelles en émail qu'il a récupérées dans la cantine de l'université où il travaillait. Et pendant le processus de cuisson, la matière qui est à l'intérieur de la pomme fait des marques dans les fissures de l'émail qui se sont formées durant l'utilisation de ces objets et pendant la cuisson également. Donc on arrive à passer à une nouvelle dimension. On parle d'au-delà de la céramique et c'est un élément important dans son travail. Voilà. Je vais vous présenter le travail d'une autre artiste qui a aussi étudié le motif du livre. Alors, on fait souvent référence au travail de Takako Araki en voyant son travail. En fait, la réalité de l'objet est totalement différente dans la mesure où ici, il s'agit vraiment de plaques de céramique, d'argile très fine sur lequel l'artiste a sérigraphié, donc a imprimé le texte. Et le choix aussi du livre, de la Bible comme livre de base est très important pour cet artiste-là. C'est aussi une référence à la culture occidentale, à la religion chrétienne. C'est un peu une critique dans la mesure où son frère est mort de tuberculose et elle a toujours eu des doutes par rapport à la foi chrétienne, alors que son père était bouddhiste, était moine bouddhiste zen. Et elle essaie d'exprimer ce sentiment-là dans le déclin du papier, l'idée qu'on retrouve un petit peu dans le bouddhisme de l'impermanence des choses, de la transformation. Donc on a des thèmes identiques, mais sur un travail de base céramique qui est complètement différent. Et donc c'est intéressant de voir les démarches. C'est aussi une artiste qui a étudié la sculpture au départ, qui s'est un peu séparée du département de céramique au début et qui petit à petit est revenue à la matière céramique dans son expression. Ensuite, une autre artiste qui a traité le thème du livre, plutôt du manga, qui est très connu aussi. Là, je vous montre trois travaux de personnes de génération qui ont commencé déjà à travailler dans les années 60, dans les années 70 au Japon, qui sont très connus actuellement et qui ont influencé tous les jeunes artistes contemporains, parce que ce sont des maîtres, ce sont des références. Tout le monde connaît le travail de M. Nishimura et de Kimio Mishima. Alors, Kimio Mishima, je l'ai rencontré, C'est une petite dame qui a 82 ans et qui fait des poubelles de 3 mètres, qui sont des représentations exactes des poubelles de son atelier. Et elle utilise donc le support céramique de nouveau avec la méthode de sérigraphie. Et là, on peut reconnaître certains des mangas, des journaux. Elle parle, elle, plutôt de l'idée du déchet, du problème de notre société moderne avec le trop-plein d'objets jetés, trop-plein d'ordures, etc. Et c'est un travail très parlant. Elle, par contre, ne se considère pas du tout comme céramiste. Elle renie complètement cet état-là, alors qu'elle a participé à beaucoup d'expositions qui comprenaient la céramique. Donc c'est pour vous donner un exemple des possibilités, des différences que l'on peut avoir dans la manière de traiter ce sujet-là et de traiter la matière. Voilà. Alors pour comprendre l'état de la céramique contemporaine, il est important aussi de voir ce qui a été fait au cours de l'histoire. Et donc, il me semblait intéressant de vous montrer l'état actuel des choses, parce que le monde céramique actuel est basé sur l'existence des fours anciens. Et on parle notamment des 6 fours que l'on appelle Rokoyo. J'ai fait ce système pour vous éviter, pour m'éviter de devoir épeler pour que vous compreniez plus facilement. Et donc, tout ce qui est en. Les triangles sont les anciens fours. Et donc, vous avez ici cette eau qui est actuellement. Un des plus grands centres de production de céramique industrielle contemporaine avec les fours de Mino qui apparaîtra plus tard et qui reste actuellement un mélange d'ateliers d'artistes, de céramistes qui produisent de la sculpture céramique comme l'artiste que je vous présenterai tout à l'heure. Ensuite, certains sont très liés à ce site-là parce que vous avez l'occasion d'y avoir un matériel qu'on ne trouve pas ailleurs, une production qui fait que la vente est plus facile. Certaines écoles, écoles ont la possibilité d'exposer le travail des étudiants. Et donc, Seto et Mino restent encore actuellement un des sites les plus importants pour la production céramique contemporaine. Vous avez à Mino une triennale de la céramique, je vous montrerai quelques images après, qui expose vraiment les artistes les plus en vogue, qui ont gagné les prix, à chaque fois un prix de céramique qui est attribué sous forme de concours. Tokoname, qui est ici, qui fabriquait à l'époque des immenses jarres pour... retenir donc les produits de tous les jours, le soya, le miso, des choses comme ça, et qui actuellement s'est développe plutôt la production de tuyaux en céramique et de produits plutôt industriels, avec évidemment quelques artistes potiers qui se sont installés sur place. Et également certains artistes contemporains très connus comme Koye, Ryoji Koye et d'autres que je citerai plus tard. Shigaraki est aussi connu pour sa production d'objets pour la cérémonie du thé. Je vous parlerai tout à l'heure aussi d'une certaine hiérarchie que l'on retrouve dans le Japon ancien par rapport à différents sites. Et donc, Shigaraki est très productif en ce moment parce que vous y trouvez Toge no Mori, Shigaraki no Mori, qui est un centre qui accepte des résidences d'artistes avec un lieu pour dormir. Vous pouvez y rester quelques mois et rencontrer d'autres artistes plus connus qui sont là en résidence. Et il y a un échange réel qui se fait, un tournus où beaucoup d'artistes de tout le Japon sont invités dans ce lieu. Echizen, qui était surtout une grande production au Moyen-Âge de vaisselle quotidienne, on sait que jusqu'au XVIIe siècle, la majorité de la vaisselle était plutôt en bois. En fait, la production céramique était plutôt réservée à une certaine élite. Mais certains fours, comme Seto, qui ont donné d'ailleurs le nom générique pour la céramique ancienne, on appelle ça Seto Mono, les choses de Seto veut dire céramique en général, étaient utilisées aussi pour la vaisselle de tous les jours. Donc à Echizen, actuellement, on a surtout des communautés de potiers qui travaillent ensemble et qui essayent de promouvoir la céramique populaire, donc la vaisselle. Tamba est très connu aussi pour son musée de céramique qui pratique de très belles expositions, comme le musée de céramique se trouve à Aichi, et était anciennement connu pour ses grandes jarres qui restent toujours un exemple et qui sont toujours produites dans la région de Hyogo, qui se trouve au-dessus de Kobe et qui est ici, Tamba. Et Bizen, que vous connaissez certainement, qui était un des sites où l'on fabriquait la céramique la plus réputée pour la cérémonie du thé, dont je vous parlerai tout à l'heure. On peut encore visiter Bizen. La production de Bizen se trouve à Inbe, à côté de... Kurashiki, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, donc sur la mer intérieure du Japon. Et on peut encore visiter certains fours. Vous avez des rues entières où on vend cette céramique qui était non émaillée, avec de très belles marques de paille. On y applique de la paille, et cette paille brûle pendant la cuisson et fait de très beaux motifs sur la terre nue. Voilà, donc ça, ce sont les fours de base qui ont été toujours associés à l'histoire de la céramique japonaise. Et en plus de ces fours anciens, vous avez les fours médiévaux qui se sont développés plus tard au XVIe et XVIIe siècle, comme par exemple Kutani, qui se trouve ici à Kanazawa et qui est très connu pour... ces peintures de couleur sous émail, transparent ou sur émail, ça dépend, et certains bleus et blancs aussi, et qui reste encore aujourd'hui une des plus grandes productions de porcelaine. On sait que la porcelaine a été découverte très tardivement au Japon, seulement au début du XVIIe siècle, contrairement à la Chine ou la Corée, où on l'utilisait depuis longtemps. Le Japon a découvert ses ressources de kaolin très tardivement, et 1616 reste la date de départ des premières productions. Et c'est un peu l'ironie de l'histoire qui fait que en 1610, un potier d'origine coréenne qui avait été ramené des conquêtes de la Corée du grand maître Toyotomi Hideyoshi avait découvert au Japon des ressources de kaolin, alors que les Japonais utilisaient quelque chose d'assez identique qu'on appelle un grès porcelaineux, qui est encore utilisé aujourd'hui, qui est un peu plus épais que la porcelaine que l'on a découvert plus tard. Et donc Kyoto aussi a développé la porcelaine peinte, décorée pour la cérémonie du thé. Hagi est connu aussi pour sa production de bols pour la cérémonie du thé avec une couverte très très épaisse, un peu blanchâtre. Je vous montrerai quelques pièces. Harita, tout le monde connaît ce nom aussi, se trouve ici. Harita et Imari sont souvent associés parce que les productions étaient côte à côte. Harita produisait de la porcelaine peinte que l'on appelle kakiemon, qui était surtout faite pour l'exportation. C'est les premières porcelaines qui sont arrivées en Occident par la voie de la Compagnie des Indes orientales. Et on appelle souvent les pièces bleues et blancs imari. simplement parce que le port principal où tout était chargé se trouvait à Imari. Donc on fait une sorte d'amalgame entre les pièces de Harita et Imari. Et pour finir, Satsuma, qui était tout au sud du Japon et qui est très connu pour une production typiquement occidentale, enfin pour l'Occident, de tasses en porcelaine extrêmement fine avec un décor de personnages. On trouve ça un peu kitsch actuellement, mais certainement vous avez ça chez votre grand-mère quelque part dans un tiroir. Et donc il y avait, c'était une production essentiellement faite aussi sur commande, et c'était une sorte d'essai technique sur la finesse de la porcelaine, la transparence de la porcelaine. Et donc je vous ai montré cette carte pour vous dire que la production actuelle est calquée sur la production ancienne. On voit maintenant en bleu les nouveaux fours qui se sont ouverts, enfin les nouvelles régions de production céramique, et notamment Machiko, qui est ici, Kasama, Tokyo, il reste encore Mino, avec Tajimi et Toki, qui sont les plus grands centres de production de céramique industrielle et aussi d'artistes contemporains. Et donc, le fait que ces artistes se mettent dans ces lieux-là n'est pas neutre. C'est simplement qu'ils ont accès à beaucoup plus de matériel, beaucoup plus de technologie. Et certes, ce sont des lieux aussi où on importe, paradoxalement, beaucoup de matériaux de l'étranger. Et, par exemple, Kuwata Takuro, que je vous montrerai tout à l'heure, lui n'utilise qu'une porcelaine importée de l'étranger. Voilà. Et donc, ici, voilà, juste pour vous rappeler quelques thèmes historiques, je vais vous présenter le travail d'un artiste que l'on a montré au tout début du livre. Voilà, il s'agit donc de Junpei Omori. Et je vais essayer de superposer ça. Comment tu fais pour ouvrir le document d'avant ? Voilà. C'était le document qui était sur le bureau, voilà, celui-ci. Voilà, ok. Voilà. Donc, pour montrer la pièce d'origine et l'inspiration de l'artiste. Mais je vais essayer de le déplacer un petit peu. Voilà. Voilà. Vous voyez qu'il y a une référence très directe au travail ancien. Je vous montre cette pièce Jomon parce que on a découvert déjà au Japon à partir de 15 000, 14 000 avant Jésus-Christ des pièces de céramique utilitaires et rituelles aussi. Très décoré d'un art incroyable pour l'époque. Et c'est une époque qui se décrit sous le terme de Jomon, qui veut dire littéralement impression de corde. Et donc le nom de la technique céramique donne le nom à l'époque historique. Et ça, je pense que c'est un exemple assez fort de l'amour que le Japon porte à la céramique en particulier. Et vous voyez donc que l'artiste contemporain qui s'appelle Junpei Omori a tout à fait repris certains thèmes, et plutôt dans un vocabulaire pop, avec quelques adjonctions même d'or à certains endroits, qui sont, je vous l'expliquerai tout à l'heure, un thème récurrent dans la cérémonie du thé. Lorsqu'on répare certaines pièces qui ont été cassées, on leur donne une deuxième vie en y mettant de la laque que l'on recouvre d'or ensuite. Et donc Junpei Omori fait partie de ces jeunes qui n'ont plus de barrières. À une époque peut-être intermédiaire où les jeunes devaient encore suivre l'enseignement de leur maître et recréer les mêmes pièces, qui n'étaient pas du tout mal vues en Asie en général, parce que la copie, comme chez nous au Moyen-Âge, enfin, on copiait les maîtres pour la peinture, était une manière d'apprendre. Mais je dirais que jusque dans les années 80, c'était aussi une limitation. Certains artistes se sentaient obligés de reproduire le travail et les techniques des maîtres avec qui ils avaient travaillé. Ce qui, depuis les années 2000, a tendance à disparaître. Et les jeunes artistes qui sont nés après 65 ont maintenant une liberté incroyable dans les méthodes d'expression et dans la manière de aussi produire leurs œuvres. Il y a eu énormément de changements aussi dans la vente des pièces. Voilà, alors ça c'est un petit... Voilà, alors là je vous donne aussi un autre exemple. Ryota Aoki se dit le roi du Japon. Il se nomme le roi de la céramique. Et c'est un jeune qui se trouve à Toki, dans la préfecture de Gifu. Et vous voyez qu'il y a une tradition ici plutôt occidentale. On reconnaît le travail de certains, je ne vais pas les citer, mais céramistes occidentaux. Et par contre, lui a joué sur l'émail, sur le côté très riche de l'émail, en appliquant, par exemple, de l'or. Vous savez que ça coûte très cher d'utiliser l'or dans cette quantité-là. Le platine aussi, énormément, ici, est à la mode en ce moment. Mais Ryota Aoki est très connu, il diffuse son travail dans tout le Japon. Les meilleurs hôtels ont sa vaisselle pour les restaurants. Et par contre, il a participé à une association de jeunes artistes. Et chaque année, en été, ils font un festival qui s'appelle Ikeyan, où tous les céramistes de la région peuvent présenter leur travail. Il a fait autre chose qui est intéressant aussi, c'est qu'il est passé en dehors des galeries officielles et il a vendu son travail sur Internet avec le travail de ses amis aussi. Et donc c'était un nouveau moyen pour les jeunes artistes de développer leur travail, qui est quelque chose de tout à fait contemporain, lié à nos nouveaux modes de vie, à nos nouveaux modes d'achat. Des pièces plus sculpturales aussi, où il a travaillé sur la matière et l'émail. Ici, un travail aussi intéressant. Vous reconnaissez des plats de décor bleu et blanc, que l'on appelle sometsuke en japonais. Et c'est un artiste qui a, pour le 400e anniversaire de Harita, puisque je vous parlais tout à l'heure de 1616, on a en fait cette année le 400e de la découverte de la porcelaine dans la région de Harita. Il a pris des plats que font les artisans locaux et il y a appliqué du noir à côté en essayant de fragmenter la pièce et de montrer, d'associer le travail traditionnel de ces artisans où on avait ces ateliers où chaque artiste était spécialisé dans un type de dessin. Vous aviez celui qui dessinait les branches, celui qui dessinait les oiseaux, les animaux. Où c'était un travail communautaire. On n'avait pas cette idée de l'artiste potier qui faisait toute la pièce et qui était maître de tout le processus de création. Et donc ici, il essaye d'associer ce travail par la fragmentation et aussi par le fait de casser certaines pièces et de les recoller. Donc de nouveau, l'association de l'ancien et du moderne qui est intéressant ici. Ça, c'est un autre travail où il réutilise des motifs traditionnels comme le dragon de façon différente. Et ici, un travail assez sage de motifs typiques de la région de Harita qu'il a montré sous forme de décalque. En fait. Il a modernisé la tradition et il a redessiné une tradition existante. Voilà, c'est un travail d'une céramiste qui est à Tokyo, qui fait de la vaisselle de façon artisanale, mais on a l'impression qu'il s'agit d'un travail presque industriel. Takuya Murata, qui est troisième génération de production de céladon, de porcelaine céladon de Kyoto, qui a réussi à se dégager de la tradition du céladon de son père, de faire des nouvelles pièces, qui sont toujours liées plus ou moins à la cérémonie du thé, vous le verrez tout à l'heure, mais qui a un vocabulaire plus moderne. Et c'est toujours difficile pour eux de sortir des sentiers battus. Voilà, ici, il s'agit d'un collectionneur de pièces de céramistes très connus, comme Koye Ryoji, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Ryoji Koye en français. Et c'est un artiste qui fait de l'ikebana. Donc, c'est, vous connaissez tous, il s'agit de la décoration florale. Et il a donc cette collection de céramique fabuleuse de maîtres très connus. Ici, Yanagihara, qui est un très grand céramiste moderne de Kyoto. Et il collabore avec un photographe et en même temps, il arrange les fleurs de façon à ce que l'objet soit mis en valeur. Et c'est une démarche assez intéressante parce que ces artistes qui étaient très actifs dans les années 70-80-90 avaient encore une sorte de problème lié à la taille de la céramique dû aux méthodes de cuisson à la taille des fours et fabriquaient ce que l'on appelle en japonais de la céramique objet. Objet en français, c'est un critique d'art qui a défini ces objets qui étaient censés être non utilitaires en disant voilà, ce sont des objets sculpturaux, ce sont simplement des objets de taille humaine qu'on peut prendre dans la main et qui étaient souvent destinés à cet espace qu'on a dans les maisons japonaises qui s'appelle tokonoma, où on mettait une œuvre d'art, un papier, un rouleau peint, une fleur, un encensoir, etc. Et donc ce que lui a fait, c'est qu'il a remoderniser ces objets, entre guillemets, en les rendant à nouveau utilitaires. C'est une sorte de clin d'œil un peu ironique à l'histoire. Et c'est une question qu'il se pose par rapport à la création. On a quelque chose d'équivalent ici. Vous voyez que le même artiste a photographié les œuvres une fois sans fleurs et avec fleurs pour nous dire que l'objet, c'est finalement nous qui décidons si on a envie d'y mettre quelque chose ou pas, c'est qu'on a une certaine liberté et que l'objet est beau par lui-même et qu'il a cette beauté intrinsèque propre que l'on retrouve tout à fait dans la cérémonie du thé où souvent les objets étaient tellement précieux qu'on ne pouvait même pas les utiliser, ils étaient simplement posés, présentés et utilisés comme une collection. Ici, donc cet artiste qui est à Kamakura, qui s'appelle Murakami Yaku, Yaku Murakami en français, a repris le thème de ces artistes du mouvement Sodeisha, qui était un mouvement d'après-guerre de jeunes artistes de Kyoto, qui se disaient, ben, nous on a envie de faire quelque chose de différent, on n'a plus envie de faire de l'utilitaire. La question essentielle dans leur manifeste de l'époque, c'est se passer en 1948, c'était « on va fermer le trou de l'orifice, comme ça, ça ne sera plus utilitaire, ça va devenir un objet ». Alors, on se moque un peu maintenant de cette idée de l'époque, mais imaginez qu'à l'époque, c'était totalement révolutionnaire, que c'était quelque chose qu'on ne faisait pas, et ça donnait tout d'un coup à l'objet son aspect sculptural. Et donc, M. Murakami a repris cette idée-là, vous voyez que l'orifice est minuscule, et donc il présente simplement les objets tels quels, on dirait presque des cailloux, presque des galets, ils sont assez grands. Hein. Et techniquement, c'est un artiste qui n'utilise pas du tout le tour, il fait tout au colombin et en pitting. Donc voilà, je vous montre quelques pièces qui me paraissent importantes aussi. Ça, c'est un artiste qui va à l'extrême aussi, où lui ne fait pas les céramiques, il prend des céramiques cassées et il les lie avec du verre dans cette idée de la céramique traditionnelle japonaise que l'on avait pour la cérémonie du thé qui consistait à réparer des pièces. Et cette technique se nomme kintsugi. Alors attends, là, il faut que je sorte. Attends.
C'est nouveau. Hein.
C'est nouveau. Alors, attends, voilà, je peux y aller là. Ça, tu peux l'enlever directement. Voilà, ok. Voilà, donc je vais passer directement ici. Voilà, vous voyez ici une pièce d'un bol coréen ancien qui a été recollé avec de la laque. Je ne sais pas si vous voyez. Au niveau des fissures, on voit, malheureusement, un bol, une fois qu'il est cassé, on ne peut pas le recuire parce qu'il va se casser encore plus. Donc les Japonais traditionnels avaient trouvé ces techniques où on utilisait la laque recouverte de feuilles d'or ou d'autres matériaux pour montrer la cassure. Et l'objet qui avait été recollé avait parfois même plus de valeur que l'objet d'origine parce que ça montrait qu'il avait été utilisé et c'était l'empreinte un peu du temps qui passe et de sa valeur historique. Et je vous montre ça parce que beaucoup d'artistes contemporains ont repris le thème du kintsugi, donc cette technique qui sert à coller la céramique, et l'ont représenté sous forme souvent modifiée. Ici, je vous montre un bol d'un japonais moderne qui s'est inspiré du bol précédent, qui était le bol des paysans coréens, ou des bols qu'on utilisait pour certains rituels funéraires. Ceci pour vous dire que l'histoire de la cérémonie du thé est importante au Japon, parce que les premières commandes d'objets pour la cérémonie du thé par des grands maîtres de thé japonais à des céramistes d'origine coréenne et japonais, c'est fait après l'utilisation d'objets importés de l'étranger, et qui étaient souvent d'origine chinoise et d'origine coréenne, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ici, voilà l'exemple d'un bol temmoku, qui venait de Chine, qui avait été importé par les premiers moines japonais qui avaient été étudiés le bouddhisme en Chine. Ils avaient ramené avec notamment le fameux thé vert en poudre matcha, qui était bu à l'époque en Chine, mais que les Chinois ont complètement abandonné. Et grâce aux Japonais qui avaient perpétué cette tradition du thé vert, on peut actuellement savoir comment les Chinois buvaient le thé à l'époque. Vous voyez que ce bol était considéré comme un trésor, et donc les maîtres du thé au début utilisaient des modèles chinois et coréens, et qu'ensuite ce sont les Japonais eux-mêmes qui ont commencé à copier ces bols en leur donnant une nouvelle forme. Ici, le bol est beaucoup plus grand, et ce sont des techniques donc à la base chinoises qui ont été complètement adaptées au Japon. Et donc les temmoku restent encore aujourd'hui. Vous voyez le prix du bol, je l'ai mis par anecdote, parce que pour les occidentaux qui ne connaissent pas la cérémonie du thé japonaise, il peut paraître très étrange de mettre un tel prix pour un simple bol. Il faut savoir qu'un céramiste qui fait de la vaisselle vendra les bols qu'il fait pour la cérémonie du thé beaucoup plus cher, simplement parce que ce bol est unique et qu'il ne va pas en faire un autre. Donc il pourra avoir une production pour le quotidien, une vaisselle tout à fait simple et accessible, mais quand il a l'inspiration ou l'envie, il aura la possibilité de faire un bol extraordinaire qui sera utilisé pour la cérémonie du thé pur. Voilà, c'est juste pour vous montrer que le Japon n'a jamais été isolé. On parle souvent du Japon comme une île, mais le Japon s'est toujours inspiré du monde entier. Et il a eu accès à l'information à travers les différents étrangers qui sont venus. On a d'abord eu les Portugais, les Hollandais qui sont arrivés, qui ont apporté les pièces de Hollande. Et même dans l'art contemporain, les jeunes artistes de ce mouvement Sodeisha refusaient la tradition, mais étaient aussi très inspirés par des artistes contemporains occidentaux, comme Paul Klee, comme Picasso. Ce qui est assez étonnant, c'est que nous avons eu l'occasion d'interviewer un artiste très connu, Raku Kichizaemon, 15e de la génération des potiers Raku. Le Raku, on le connaît bien chez nous, c'est plutôt considéré comme une technique qui est facile, entre guillemets, parce que c'est une cuisson qui se passe à basse, très basse température qu'on peut faire dans son jardin, qui a eu beaucoup de succès chez nous. En fait, au Japon, Raku définit plutôt un style et non pas une technique. Et ce style est défini par cette grande famille Raku Kichizaemon. Raku est le nom qu'avait donné le fameux seigneur de guerre qui avait été récupéré les potiers coréens. Il avait offert un sceau au potier Shojiro, et sur ce sceau, il était marqué Raku. Et Raku en japonais veut dire quelque chose d'agréable. Comme on dit se détendre, on dit Rakunishite kudasai, mettez-vous à l'aise. Donc, le terme Raku a été récupéré ensuite comme nom de cette dynastie de potiers. Et ce qui est étonnant ici, c'est que l'interview, en fait, on se dit, bon, ben voilà, il va nous parler du Japon traditionnel, du Japon ancien. Et en fait, pendant tout l'interview, il nous parle de Picasso, de Klee et de sa fuite en Italie quand il était tout jeune, apprenti, qu'il ne voulait pas suivre les traces de son père, etc. Et on découvre, ce n'est pas un cas unique, on a le même cas de figure chez le descendant de la dynastie Kutani, par exemple, à Kanazawa. Ces jeunes artistes qui se sentaient un peu étouffés par la tradition ont décidé d'abandonner pour quelque temps la céramique, mais ils sont tous revenus d'une façon ou d'une autre pour montrer à quel point le travail céramique japonais est important et fait partie d'une très longue tradition. Et surtout, ces artistes ont découvert qu'à notre époque, on pouvait vivre de la céramique parce que les Japonais achètent encore ces bols pour la cérémonie du thé, pour le quotidien. On a peu de place au Japon, donc on essaie d'avoir de beaux objets. Et un beau bol pour boire son thé, un beau plat est très important. Et même les jeunes mettent facilement plus d'argent pour acheter une belle pièce d'un céramiste, d'un potier dans un marché que d'aller acheter de la vaisselle industrielle. Donc voilà, ici un exemple du travail actuel de ce Raku Kichizaemon qui va passer le flambeau à son fils qui a une trentaine d'années, et ils ont fait pour la première fois une exposition les deux cette année au Japon. Et cette exposition a été très bien reçue parce que le travail du fils n'est pas encore à coup, entre guillemets. Il est beaucoup plus libre et il est encore, disaient les articles, maladroit. Et en fait, ça donne une certaine fraîcheur à la tradition. Et ça, c'est un espace magnifique que Monsieur Raku a créé dans un musée qui s'appelle le musée Sagawa, près de Kyoto, où on retrouve l'esprit de la cérémonie du thé, cet esprit de recueillement, où on passe un moment unique avec son invité. À l'époque, les chevaliers, les samouraïs devaient enlever leur sabre, déposer leur sabre à l'entrée, se déchausser, entrer à genoux dans les pavillons de thé pour partager un thé avec le maître. Et c'était un moment où tout le monde était égal. Et on pratique encore aujourd'hui la cérémonie du thé dans certaines classes sociales. Ça a été souvent été réservé à une élite. On trouve maintenant justement certains jeunes artistes. Ici, vous voyez Kim Ryo, qui est d'origine coréenne et japonaise, qui est un jeune artiste d'Osaka, qui a recréé les ustensiles de la cérémonie du thé traditionnelle sous forme contemporaine. Donc on a le fourneau pour chauffer l'eau, on a le pot à eau, le bol pour boire le thé, le bol pour verser l'eau qui n'est pas pure, et puis là, un objet qu'il a, lui, qui fait partie de son travail d'artiste. Et vous voyez, c'est un jeune, on a passé une soirée formidable. À 3h du matin, on a fini dans un karaoké. Et donc, pour montrer que c'est des jeunes qui vivent leur vie au jour le jour, mais qui ont un amour de la tradition. qui est encore actuel. Et donc, lui fait des sortes de performances où il invite les jeunes qui ont une sorte de peur, justement, de toucher à ce monde ultra-traditionnel. Il essaie de leur dire, bah non, vous pouvez boire le thé sur votre table, dans votre cuisine, simplement avec une vaisselle adaptée, mais c'est tout à fait possible. Et il a même été jusqu'à créer des bols fluorescents. Et donc ça, c'est considéré par certaines personnes comme un peu trop moderne, mais en même temps, il a une approche intéressante. Ici, c'est aussi un jeune artiste de Gifu, qui est très connu maintenant. Il expose énormément aux États-Unis et il a eu une exposition à Bruxelles dans la galerie Pierre-Marie Giraud. C'est un des jeunes qui, lui, vient de Hiroshima à la base. Il n'avait pas du tout de tradition céramique autour de lui, mais il a décidé d'utiliser la céramique comme moyen d'expression. Et il a un vocabulaire plutôt coloré, on dira. Mais c'est quelqu'un qui expérimente la matière sans arrêt. Ça, c'est qu'une partie de son travail. C'est quelque chose de... je dirais que chaque année, il change de style, en fait. Et sa particularité, c'est qu'il garde toutes les pièces qu'il a fait avant. Souvent, les potiers jetaient tout ce qui ne le considérait pas important. Lui a un espace entier avec toutes les pièces qu'il a réalisées. Et chaque fois qu'il se promène dans cette partie de son atelier, il réinvente une nouvelle manière de développer une certaine technique. Et il est très touchant parce qu'on peut aimer ou pas son travail, mais sa démarche est très intéressante. Il va chez différents céramistes dans tout le Japon. Il reprend ce thème du kamagure, qui était ses potiers à l'époque Edo, donc entre le XVIIe et le XIXe siècle, qui partaient et qui louaient leurs services à différents potiers dans tout le Japon. Et lui va à chaque fois dans un lieu différent utiliser les terres locales. Et dans ce travail-là en particulier, il a développé le thème de la coulure qu'il identifie à ce travail de kintsugi où on colle les bols ensemble. Et donc lui expose tout à fait, par exemple, dans des galeries d'art contemporain qui n'ont aucun lien avec la céramique. Il a un travail complètement là. On retrouve l'utilisation du platine qui est très en vogue en ce moment au Japon. Voilà, des choses assez extrêmes. Mais le point de départ est le bol de la cérémonie du thé. Donc ça peut paraître très étonnant, mais ce sont des thèmes qui restent toujours d'actualité. Alors voilà, dans ce livre, on a parlé de plusieurs artistes qui sont très différents. C'était très difficile de faire un choix, mais on voulait montrer le maximum de possibilités. Et ça, c'est une artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Eri Dewa, qui colle des plaques de porcelaine très fines, vous imaginez le travail, et qui a développé aussi une technique de cuisson qui fait que la pièce ne se déforme pas du tout. Alors c'est d'assez petites dimensions, les plus grands sont peut-être comme ça. Et actuellement, elle fait tout un travail sur la lumière. Elle a commencé à faire des lampes avec cette technique-là. Et elle développe son travail. Elle est près de Kanazawa, à Toyama. Et vous voyez qu'elle a aussi une manière très moderne de présenter son travail. Et au Japon, je pense que ce qui fait la différence de la nouvelle génération, c'est la manière de présenter le travail. Ils sont passés à une présentation sous forme d'installation où on a multiplié la vaisselle, on a multiplié les objets, ce qui rend pour les gens les choses beaucoup plus accessibles. On a moins cette peur de toucher, cette peur de casser, etc. Et donc il y a vraiment une nouvelle manière de définir les choses. Ça, c'est aussi une artiste incroyable. Makiko Hattori, qui est un peu obsessionnelle. Elle passe aussi ses journées à faire des petites bandelettes de porcelaine qu'elle enroule ensuite. Et elle explique qu'elle n'a jamais en tête la forme finale du bol, de l'objet. Elle le fait sur le moment. Et c'est en faisant qu'elle construit ses formes et qu'elle arrive à obtenir ses formes assez incroyable sous forme de volute. Imaginez la finesse, ce sont des pièces assez importantes. En général, elle travaille pendant plus d'un mois sur une pièce. Et donc, c'est vraiment des jeunes qui ont développé eux-mêmes de nouvelles techniques. Il y a vraiment une nouvelle vitalité, mais qui part toujours d'une tradition. Et donc, on ne crée rien sans rien. C'est toujours important d'aller voir la base. Ça, c'est aussi Kawabata Kentaro est très libre aussi dans sa manière d'utiliser. Vous voyez, son travail céramique est très variable. Beaucoup d'installations, beaucoup d'objets, sculptures sur les murs, mais il fait également des bols encore pour la cérémonie du thé. Chose très baroque ici, où on a un jeu sur vous voyez, la tasse. Là. Donc vraiment une liberté énorme dans la création, et c'est tout à fait accepté dans le monde contemporain. Ici aussi, une jeune artiste qui a 25 ans, extraordinaire. Elle a étudié en Finlande. Elle a été très inspirée par le travail des Scandinaves. Elle avait été inspirée par une carafe, elle m'avait dit, d'un designer finlandais qui était à double, paroi, exactement, qui permettait de garder l'eau fraîche. Et c'est à partir de ce thème-là qu'elle a développé ses sculptures, ses objets sur plusieurs niveaux. En fait, vous avez un intérieur, un extérieur. Et imaginez le travail de dessin, de peinture, qui est tout à fait inspiré des pièces anciennes, traditionnelles de Imari ou Akita, où en plus elle applique des cordes, du métal. En fait, c'est un travail incroyable au niveau de l'invention et de la recherche. Et c'est une femme toute timide, qui est donc très difficile d'interviewer puisqu'elle ne parlait pas. Donc j'ai dû trouver d'autres moyens pour écrire ce texte. Et si on creuse un petit peu, on se rend compte que tout n'est pas si mignon que ça. En fait, les thèmes qu'elle développe sont souvent des animaux de fond marin, des choses qui l'angoissent, des choses qui font peur, des visions de l'enfer, de rouleaux bouddhiques qu'elle voyait quand elle était petite. Donc il y a tout un vécu derrière ces artistes. Et ça, c'est aussi une artiste intéressante qui travaille sur le thème de la chimère, hein, des animaux. Et c'est une coupe à saké que vous pouvez poser à l'envers et présenter telle qu'elle, vous voyez, sous plusieurs formes. Et elle joue énormément sur tout un vocabulaire décoratif, hein, qui est assez, un peu issu des années 80, où beaucoup d'artistes utilisaient un peu les motifs surdécorés, un peu baroques, comme ça. Et elle a fait un travail avec un artiste peintre qui est très connu. Elle a fait une pièce, cette pièce-là est toute petite et comme ça. Par contre, elle a fait un travail qui fait 2 mètres de haut, donc montrer aussi les possibilités infinies que cela représente. Ici, c'est un hommage qu'on a fait de nouveau à quelqu'un qui est un peu plus jeune, mais qui est actuellement professeur à l'Université des Beaux-Arts de Kyoto, qui a décidé de cuire la matière au-delà de sa capacité. C'est Yo Akiyama, c'était une des figures les plus importantes de la céramique contemporaine japonaise, et lui a choisi donc d'aller au-delà de la matière, et souvent il a été avec des chalumeaux brûler la terre après, avant de la cuire, et il a parfois tourné une pièce qu'il a renversée, enfin, qu'il a inversée, et lui a été un des premiers. Maintenant il fait des objets assez petits, mais pendant les années 90 il a créé des pièces qui faisaient des fois 3 mètres de long en assemblant différentes parties. Et donc lui a décidé de devenir professeur pour donner à ses étudiants de nouvelles possibilités techniques. Et vous voyez que finalement, avec le temps, ces maîtres qui étaient souvent issus d'une tradition ont eux-mêmes inventé de nouvelles techniques qu'ils ont transmises à leurs élèves, et donc les choses évoluent très vite. On a beaucoup de nouvelles représentations. C'est un travail de Chieko Katsumata qui est basée en partie à Paris et en partie à Kyoto. Et elle fait un travail surtout sur la couleur. Et elle a une manière de poser les émaux qui font qu'on a un effet poudré qui est assez intéressant et révélateur de son vocabulaire formel. Alors là, on arrive un peu dans la caricature. C'est un artiste qui vend très bien à Taïwan. Vous pouvez imaginer pourquoi. Et donc, il reprend tel quel. Hein, c'est des grands formats, des personnages de manga et de la pop culture japonaise qui font partie de leur propre vécu, qui font partie de leur propre réalité. Et donc, il s'agit de Kitagawa Hiroto. Vous voyez le héros entre Batman et des héros de la science-fiction. D'autres qui sont très techniques, hein, qui ont un imaginaire aussi incroyable et dont l'aspect technique du travail est assez incroyable et qui posent des questions sur la réalité de l'objet. Lui, c'est plutôt un scientifique, hein, très ludique. Il est parti du Lego. Et il a par exemple reproduit ici le drapeau japonais avec le même pourcentage de rouge et de blanc que le drapeau réel. Il faut savoir que la porcelaine se déforme énormément à la cuisson et donc techniquement c'est un travail impossible. Il passe ses journées à faire des essais sur la déformation de la matière, etc. Et voilà, donc vous montrez des choses aussi qui allient l'histoire. Vous voyez, c'est la figure d'un saint japonais que l'on appelle Kanon, d'un bodhisattva. Vous avez reconnu le iPhone, le iPad et les écouteurs. Hein, donc c'est une manière d'associer la réalité contemporaine. Donc voilà, énormément de choses différentes. Cet artiste-là aussi qui s'inspire du manga et de personnages inventés a exposé à l'Ariana récemment. Donc de nouveau un mélange entre le bidimensionnel, le tridimensionnel, où il intervient dans l'espace. Donc, je vous parlais de l'installation tout à l'heure, vous montrer que les possibilités sont infinies et qu'on peut réaliser des choses incroyables. Voilà. Donc là aussi, de nouveau, le travail de l'artiste tout à l'heure, qui prend des thèmes tout à fait traditionnels, qui lient au travail. Du coup, les gens se sentent plus proches, les jeunes recommencent à acheter des statuettes bouddhiques, alors que c'était pas du tout l'habitude des jeunes. Voilà, aussi, avec toute l'installation autour. C'est un travail très intéressant. Ensuite, cet artiste-là, Matsumoto Keiko, qui vend beaucoup dans les hôtels. Ça, c'est aussi une dimension très importante du commerce céramique au Japon. C'est que vous avez des foires spécialisées pour les jeunes, pour les hôtels. Donc, dans le but de poser certaines pièces dans le hall et dans les chambres, etc., des hôtels, qui créent tout un nouveau marché, des nouvelles possibilités pour les jeunes. Et elle joue énormément sur, de nouveau, le bidimensionnel, tridimensionnel, où vous voyez qu'il y a une partie peinte sur une assiette et une partie sculptée du même sujet en relief qui se détache. Hein. Donc de nouveau, un retour à la tradition, d'une certaine façon, mais avec une application complètement différente au niveau technique et au niveau de la représentation. Des choses assez insolites. Vous voyez là un oiseau qui sort du pot et qui vole. Donc vraiment énormément de possibilités. Tout le monde, je pense, connaît Setsuko Nagasawa, qui était professeur à Genève, à l'époque c'était encore l'école des arts décoratifs, et qui était un peu au départ de mon amour pour la céramique. C'est elle qui m'a présenté mon maître japonais, et donc c'était aussi un hommage de la mettre dans ce livre. Et surtout, c'est quelqu'un qui est très actif en France pour le développement de la céramique contemporaine, et il nous a semblé important aussi de montrer des gens qui étaient accessibles pour tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'aller au Japon pour pouvoir voir leur travail. Vous pouvez aller en France, à Paris notamment. Ils sont encore très actifs. Et donc, elle était vraiment dans, je dirais plutôt dans la ligne de M. Nishimura, où elle a commencé à faire un travail, par exemple, de terre crue, où elle mettait simplement de la terre contre les murs et elle faisait des sortes de performances, de happening, comme ça, quand elle était jeune, céramiste. Et c'était une des premières aussi à travailler le thème de la plaque et l'installation aussi dans l'espace, etc. Donc elle a aussi énormément influencé les artistes. Alors, ça, c'est un artiste qui vit aux États-Unis et qui a une vision du Japon qui peut choquer, qui est un peu critique de la société japonaise, mais en même temps, une amie céramiste me disait, mais elle, pour elle, le quotidien quand elle était jeune, c'était ça. On mangeait sur une table, sur un tatami, on regardait la télé. Et donc pour elle, c'était presque pas choquant, mis à part le fait qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir à côté. Ça faisait partie de son quotidien. Et donc, vous voyez que ça peut aller très loin aussi dans les représentations. Alors, cet artiste est intéressant, vous voyez qu'il fait aussi ce genre de choses. Juste noter que tous les visages de tous les personnages, c'est lui. C'est lui sous forme d'enfant, sous forme de femme, d'homme, etc. Donc, encore une autre dimension. Et donc lui, par exemple, est vendu à Osaka dans une galerie d'art contemporain, pas du tout céramique. Donc, de nouveau, une autre possibilité. Voilà, et donc pour revenir, pour fermer la boucle, on retrouve Mishima, Kimio Mishima, dont je vous avais montré les mangas et les journaux, qui a été une des premières artistes à partir aux États-Unis, et où elle a évidemment été inspirée par des modèles de pop art qu'elle a essayé de recréer ensuite. Et c'était une des figures, surtout pour une femme au Japon à cette époque-là, de devenir artiste contemporaine, alors qu'elle venait d'une famille pas du tout liée au monde de l'art. C'était quelque chose d'assez extraordinaire, et elle est encore aujourd'hui vue comme une figure très importante. Voici sa fameuse poubelle. Et donc, imaginez que cette poubelle fait 3 mètres, et qu'elle l'a recréée complètement, la poubelle de son atelier. Hein, qui est l'idée des choses qui l'entourent aussi. Là, on voit encore d'autres exemples de manga. C'est aussi une référence au livre qui peut rappeler le travail de Yori Nishimura. C'est que ces mangas-là sont édités chaque semaine avec une quantité phénoménale. Les gens les lisent et les jettent. Et donc, c'est tout ce problème de la récupération des objets, des ordures, du recyclage. Ça, ce sont des pièces qu'elle a faites à partir de la terre qui avait été enlevée pour construire son atelier à Gifu. Elle a décidé de cuire et de faire un amalgame et de présenter son travail. Ouais, vous voyez qu'elle est vraiment considérée. Ça, c'est une rétrospective qui a eu lieu à Tokyo récemment. Là, elle a décidé d'imprimer d'un côté les textes en japonais, de l'autre les textes en anglais, de journaux de plusieurs époques. Donc il y a toute une approche sur l'histoire, sur l'information, sur des thèmes quotidiens. Et voilà, pour finir avec notre invité de ce soir, où il a ici cuit le catalogue d'exposition du musée dans lequel il a exposé. Voilà, donc pour terminer la soirée, voilà d'autres pièces que je vous ai montrées tout à l'heure. Ça, c'est un élément qu'il a de l'information sur la fin de l'Union soviétique. Il appelle ce travail la perestroïka. Et donc, il a pris l'information de l'époque et il a momifié, il l'a rendu indestructible. Voilà, et voilà, ça c'est le dernier travail pour vous montrer à quel point la céramique est importante. C'est une femme artiste qui ne travaille pas du tout la céramique. Elle demande à des céramistes de réaliser les pièces pour elle. Et donc, c'est juste le concept. où elle a retravaillé l'idée de ce fameux saint qui est censé aider les êtres humains à atteindre le nirvana. Et ces bodhisattvas refusent eux-mêmes l'illumination pour aider les êtres humains à atteindre le satori, comme on dit en japonais. Et donc elle a demandé à des gens qui venaient visiter l'exposition de participer. Et ensuite, elle a fait tout un travail photographique sur ce thème-là. Voilà. Pour terminer en beauté. Voilà. Merci. Si vous avez des questions.
Merci.
Merci. Je vous en prie. どうでしたか？いろいろ新しいものを発見しました。
C'est une question très bête, oui. Mais sur la carte, on voyait les fours, il n'y a pas de fours dans le nord, en fait.
Très peu, en fait, parce que le nord, déjà, à la période Edo, c'est-à-dire jusqu'au 19e siècle, était considéré comme sauvage. Et on a commencé seulement à cette période-là à mixer les terres du nord. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément... Alors peut-être que ça vient de la nature du sol, on n'avait pas les ressources qu'il fallait. C'était des régions très arides, très froides, hein, qui ont mis longtemps, les gens ont dû déboiser, déforester. Donc ça a été toujours très mal vu. On exilait les gens, en général, qui perdaient les guerres. On les envoyait dans ces régions-là. Voilà. C'était un peu la Sibérie, alors que maintenant, bah, c'est tout à fait développé. Mais effectivement, on a très peu de céramistes de Hokkaido. Il y a très peu de cas. C'est tout à fait... Donc, c'est vrai. D'ailleurs, c'est un manque de la carte. On aurait dû mettre Hokkaido. Les Japonais, en général, le mettent juste dans la... Parce que comme le Japon fait plus de 3000 km de long, en général, on n'a pas la place de mettre Hokkaido, donc on le met au milieu où il ne devrait pas être, mais on le met quand même. Et là, malheureusement, les Françaises ont oublié de le mettre. C'est un peu dommage. Ça étonne toujours les Japonais. Donc, très bonne question. Vous avez d'autres questions?
Tu parlais des premiers fours de Rabotri. Mm-hmm. Ils sont de quelle époque? Je sais pas si
c'est... Alors, ça a commencé très tôt. Hein. Tu as vu qu'on avait des choses déjà 14 000 ans avant Jésus-Christ. Ça s'est développé plus tard, autour de 300 avant Jésus-Christ, 300 après, pour la vaisselle utilitaire. Et puis, c'est surtout des commandes. Je dirais autour du 10e, 11e siècle, on a commencé à faire une vaisselle un peu rituelle, légèrement vernissée, qui était souvent très friable, qu'on jetait, qui n'avait pas tellement de valeur. Et c'est avec l'avènement de la cérémonie du thé qu'on a vraiment commencé à commander les objets et à diffuser la céramique au niveau utilitaire, au niveau quotidien. Donc ça, c'est beaucoup plus tard, autour du 14e, 15e siècle.
La Chine, tu parles de 14 000 ans, c'était le Japon
C'était le Japon. La Chine, on a eu, je parlais de la porcelaine, en fait, on avait découvert bien avant en Chine et en Corée la porcelaine, alors qu'au Japon, c'était seulement au 17e. Et c'est vrai que nous, quand on pense au Japon, on pense souvent à la porcelaine, et en fait, c'est une des productions les plus mineures jusqu'au 17e siècle. Et donc c'est intéressant de savoir qu'il y a seulement 400 ans qu'on produit des choses en porcelaine pure, entre guillemets. Avant, c'était un grès qui ressemblait à la porcelaine. Voilà. Donc c'est difficile de donner un éventail en une heure, mais c'est vrai que c'est tellement riche. Pour nous, ça a été déjà un problème de faire un choix. Et donc, on a choisi des artistes qui étaient accessibles, qu'on pouvait joindre, etc. Parce qu'on en a vu d'autres qui vivaient dans la forêt, au fond de la montagne, et qui avaient un travail très intéressant, mais qui finalement était difficile d'accès plus tard. Donc, ça fera peut-être l'objet d'un autre travail. Voilà. Merci.
Merci.